Le médecin des pauvres, deuxième partie, chapitre 25. Le bon moine. La chambre dans laquelle la mère Fint avait installé le vieux moine était étroite et basse, avec une voûte au lieu de plafond. Son ameublement consistait en un grand lit enveloppé dans des rideaux de serge rouge, en un bahut de bois de noyer et en deux ou trois escabeaux. Deux planches de sapin, ajustées le long de la muraille, supportaient des nombreux et brillants ustensiles de cuisine, trop encombrants pour trouver place dans la cantine proprement dite. Depuis le moment où, quelques heures auparavant, les deux soldats avaient étendu le moribond sur le lit, il avait paru dormir d'un profond sommeil, et la mère Fint s'était sentie rassurée par le bruit de sa respiration égale et calme. La retraite, battue par les tambours et sonnée par les clairons, avait fait rentrer tous les hommes d'armes dans les casernes. Les sentinelles seules continuaient leur ronde sur les remparts, en s'enveloppant de leur mieux dans leurs amples manteaux pour se garantir contre la pluie glaciale chassée par des bourrasques impétueuses. La mère Fint et le grand Nicolas étaient assis l'un à côté de l'autre dans la première pièce, auprès d'un reste de feu qui se consumait dans la cheminée. L'œil endormi, les bras ballants, la bouche ouverte et le nez en l'air, le grand Nicolas ne pensait absolument à rien. Nous prenons sur nous de l'affirmer. La cantinière s'absorbait dans les soins qu'elle prodiguait à un petit pot de terre brune, placé sur les cendres chaudes et contenant un breuvage qu'elle comptait administrer aux religieux au moment de son réveil. Ce breuvage, dont il n'était point possible de révoquer en doute les propriétés quasi miraculeuses, se composait de vin du Jura, fortement sucré et assaisonné de diverses épices, telles que muscade, cannelle et clou de girofle. Ce remède souverain, qui s'appellerait aujourd'hui tout simplement un bischoff, était considéré par la mère Fint comme la plus parfaite et la plus complète expression de la panacée universelle. Le grand Nicolas partageait volontiers cette opinion, et il aurait consenti de grand cœur à se rendre malade, pourvu qu'un semblable remède lui fût administré à haute dose. La vieille femme venait de remuer pour la 20e fois le contenu de son petit pot avec une cuillère de bois, quand il lui sembla entendre un léger bruit dans la chambre à coucher. Elle y courut. Le moine venait de s'éveiller. Il avait quitté la position horizontale et s'était assis sur le lit. « Digne femme, murmura-t-il d'une voix presque éteinte, c'est vous, sans doute, qui avez eu compassion de moi? C'est vous qui m'avez sauvée et recueillie?
J'ai fait ce que j'ai pu, mon bon père.
Ceci vous sera payé au centuple dans l'autre monde.
Comment vous trouvez-vous maintenant, saint religieux?
Mieux, beaucoup mieux. Je souffre encore de mes meurtrissures, mais il me semble que les forces me reviennent.
Attendez, mon bon père, je vais vous guérir tout à fait.
Et de quelle façon?
Vous allez voir.
La mère Fint retourna dans la cantine. Elle versa dans un gobelet d'étain le contenu du petit pot, et elle présenta le gobelet au moine en lui disant « Buvez, saint homme !»«
Qu'est-ce que cela ?»«
C'est la vie et la santé, buvez !»
Le vin épicé répandait une odeur suave et pénétrante. Le moine n'hésita pas et vida le gobelet d'un trait.
« Eh bien ?» demanda la vieille femme.
« Ah, vous aviez raison, c'est la vie. Il me semble que je renais. Il me semble qu'un nouveau sang coule dans mes veines. »«
Je savais bien !» s'écria la cantinière avec une expression de triomphe.
« Je crois que je pourrais me tenir debout et marcher, » poursuivit le moine.
« Vraiment ? Toutes mes douleurs ont disparu. »«
Que Dieu soit béni !»«
Si j'essayais !»«
Essayez, saint homme, rien n'empêche. Vous vous recoucherez après. »
Le moine quitta le lit non sans peine et fit quelques pas en chancelant.
« Voulez-vous vous appuyer sur mon bras ?» lui dit la mère Fint, « et venir un instant vous asseoir au coin du feu ?»«
Quelle heure est-il ? »
9h30.
Eh bien, allons.
Le religieux et la cantinière gagnèrent lentement la première pièce. Aussitôt qu'il avait été seul, le grand Nicolas s'était endormi. Sa mère le réveilla brusquement afin de lui prendre son escabeau et de le donner au moine. Le pauvre garçon s'en alla se rendormir dans un coin. Le moine s'assit à sa place, mais non sans pousser force gémissements et force soupirs.
« Vous souffrez donc encore, bon père ?» lui demanda la vieille femme.
« Oui, plus que je ne le croyais tout à l'heure. Je sens que tout mon corps est brisé. »«
Ah ?» s'écria la mère Fint dans un transport d'indignation rétrospective.
« Ah, les mécréants ! Traiter ainsi un saint homme, un vénérable serviteur de Dieu, qu'il soit maudit et damné !»«
Ne maudissons personne, digne femme !» interrompit le moine. « D'ailleurs, ce n'est pas moi qu'il faut plaindre. »«
Et qui donc ?»«
Le pauvre jeune frère qui m'accompagnait, un novice de 20 ans à peine, que ces hommes égarés ont entraîné avec eux pour l'assassiner. »
La mère Fint cacha son visage dans ses deux mains.
« L'assassiner ? » répéta-t-elle. « Un novice ? Est-ce Dieu possible ? » ?»«
Hélas, ce n'est que trop certain. »
« Mais dites-moi, vénérable religieux, pourquoi donc ces misérables vous ont-ils traité ainsi ? Pourquoi vous arrêter et vous égorger ? » ?»«
Ah, si vous aviez été des intendants de grands seigneurs ou des collecteurs de dîmes, j'aurais compris ça. Mais vous ?»
C'est que, digne femme, ces criminels, à qui Dieu veuille accorder le repentir, savaient sans doute que nous avions aujourd'hui sur nous plus d'or que n'en ont jamais les collecteurs de dîmes et les intendants de grands seigneurs.
La mère Fint ouvrit largement ses petits yeux étonnés.
Plus d'or ? Répéta-t-elle. Et comment ?
Nous sommes des moines de Cuzo. Peut-être mon costume vous l'a-t-il appris déjà ?
Oui, bon père. Je suis le trésorier du couvent, et j'allais, avec un novice, porter à l'abbaye de Vaux-sur-Poligny une somme que nous devons au prieur.
Une grosse somme ?
10 000 livres.
La mère Fint frappa l'une contre l'autre ses grosses mains.
10 000 livres ? Répéta-t-elle. Ah, Seigneur mon Dieu, bonne Sainte Vierge Marie ! D'où Jésus ? 10 000 livres ?
Hélas, oui, digne femme, tout autant. Mon compagnon en portait la moitié dans un sac de peau attaché sous sa robe. J'avais le reste dans ma besace.
Et ils ont tout pris ?
Ils l'ont cru, du moins.
Est-ce qu'ils se trompaient, mon père ?
Oui, et voici comment. Quand ils se sont jetés sur moi pour m'arracher ma besace, j'ai voulu la défendre. Elle s'est ouverte dans la lutte et une bonne partie de ce qu'elle contenait s'en est échappée.
Et ils ne l'ont pas vue ?
Non.
« Vous en êtes sûr, saint homme ?»«
Oh, parfaitement sûr, voyez plutôt !»
Le vieux moine fouilla dans la poche de sa robe et il en tira une 10aine de pièces d'or qu'il mit dans la main de la mère Fint.
« Tenez, reprit-il, j'ai ramassé ceci sur le sol quand je suis sorti de mon premier évanouissement.
Prenez cet or, gardez-le, je vous le donne. »
La cantinière poussa une exclamation joyeuse qui réveilla en sursaut le grand Nicolas.
« Vous me donnez cela ? »
murmura-t-elle ensuite avec une sorte de délire.
« Vous me le donnez à moi ? Pour moi ? » ?»«
Oui, digne femme, et c'est la preuve qu'une bonne action reste rarement sans récompense, et que souvent cette récompense ne se fait pas longtemps attendre. »
La mère Fint courut enfermer dans le bahut les pièces d'or que le moine venait de lui donner. Puis elle revint auprès de la cheminée, et elle resta pendant un instant silencieuse, absorbée dans ses réflexions. Enfin, elle reprit avec le sourire et le regard enflammé de la cupidité qui s'allumait en elle.
« Et vous dites, saint homme, qu'il est tombé beaucoup d'or de votre besace ?»«
Oui, beaucoup. »«
Plus que vous n'en avez ramassé ?»«
10 fois plus. »«
10 fois plus, répéta-t-elle. Une fortune !»«
Les pièces d'or jonchaient le sol, poursuivit le moine. Elles entraient dans la terre humide. Elle disparaissait dans les herbes.
Mais on le trouvera, cet or.
Sans doute.
On l'emportera.
Ah, celui qui demain passera par là le premier fera une riche récolte.
Mais, bon père, celui-là sera peut-être un mauvais chrétien qui consacrera tant d'argent à un mauvais usage.
Cela est bien à craindre, en effet.
Ne vaudrait-il pas mieux que quelques personnes pieuses et de bonne vie « profita de cette richesse ?»«
Oui, certes, cela vaudrait mieux. »«
Et si cette personne pieuse, c'était moi ? » Ah, digne femme, je le souhaiterais de tout mon cœur, et dans ce bonheur qui vous arriverait, je verrai le doigt de Dieu.
Eh bien, saint homme, cela est possible.
Tant mieux, oh, tant mieux.
Mais comment?
Êtes-vous disposé à m'aider, bon père?
De tout mon pouvoir.
Alors, ce n'est pas demain matin qu'il faut ramasser cet or.
Et quand donc?
C'est cette nuit. C'est tout de suite.
Mais par quel moyen sortir du château?
Vous ne pourrez jamais en venir à bout.
Je n'ai qu'à vouloir, au contraire, pour pouvoir.
Le moine regarda la mère Finte d'un air étonné.
Oui, répéta la vieille femme, je n'ai qu'à vouloir. Il y a une poterne à 20 pas d'ici.
Elle est fermée, sans doute.
Oui, mais mon fils est porte-clés.
Je ne dis pas non. Seulement, c'est vous exposer à un grand danger.
Lequel?
Si le gouverneur apprenait.
Comment le saurait-il?
La nuit est noire. Il pleut. Tout le monde dort. Les sentinelles ne verront rien.
Songez donc que le cardinal de Richelieu est dans le château.
Oui, mais il est enfermé dans son appartement, où personne ne peut pénétrer.
Soyez sûr qu'il pense à dormir plus qu'à toute autre chose. Et il doit en avoir bien besoin pour se reposer.
Surtout aujourd'hui.
Pourquoi surtout aujourd'hui?
Parce qu'il a passé toute la nuit à juger l'homme à la robe rouge.
Quel est cet homme?
Un des chefs de la montagne, un prêtre qui s'appelle le curé Marquis.
Vous en avez entendu parler?
Souvent.
C'est, comme vous le savez, le compagnon de Lacuzon et de Varose.
Et j'imagine que l'exécution a suivi de près le jugement et que le curé Marquis est à cette heure dans l'autre monde.
Non, il paraît qu'on ne l'exécutera que demain matin.
Ah, demain?
Oui, monseigneur le cardinal l'a fait mettre en chapelle pour lui donner le temps de se repentir de ses péchés et de demander pardon à Dieu.
C'est un si bon chrétien que monseigneur le cardinal.
Enfin, vous voyez, saint homme, qu'il n'y a véritablement aucun danger et que le moment est bien choisi pour ramasser l'or.
Tout cela se peut.
Cependant,
ce serait offenser Dieu, interrompit la mère Finte, que de laisser une telle somme tomber aux mains d'un débauché qui la dissiperait en toutes sortes de fâcheux usages.
Sans doute, sans doute.
Nous porterions la faute de tous les péchés. N'est-ce pas votre avis, bon père?
Oui, oui, vous avez raison. Et du moment que vous consentez à vous exposer, je m'exposerai à tout plutôt que d'abandonner cet argent.
Au fond, je vous approuve. Vous en ferez de bonnes œuvres.
Beaucoup de bonnes œuvres.
Vous servirez de guide à Nicolas, n'est-ce pas?
C'est-à-dire que je lui indiquerai bien exactement l'endroit où je suis tombée. Car je ne puis songer à me traîner jusque-là. Je n'en viendrai jamais à bout.
Cela suffira.
On le croit bête, mon pauvre Nicolas, mais je suis bien sûre, moi, qu'il sera trouvé.
La vieille femme se leva, et d'une main tremblante d'émotion et de convoitise, elle alluma une lanterne et la referma avec soin.
« Nicolas ! » cria-t-elle ensuite. « Hé, Nicolas !»
Le grand garçon se réveilla tant bien que mal, puis tout en bâillant et en se frottant les yeux, il demanda.
« Eh bien, mère, qu'est-ce que vous voulez ?»
La vieille femme ouvrit le bahut et lui montra les pièces d'or en disant
« Sais-tu ce que c'est que ça ?»«
Ça, c'est de l'argent. »«
C'est de l'or, et l'or vaut 10 fois plus d'argent que l'argent. »
« Alors, pour une pièce comme celle-là, on a beaucoup d'eau de vie ?»«
Oui, beaucoup. »
« Combien de verres ?»«
Au moins 200. »
L'œil de Nicolas étincela.
« Donnez-moi une de ces pièces qui valent tant d'eau de vie, » fit-il en tendant la main.
« Oui, tu en auras une, mais il faut la gagner. »«
Comment ?
Où est la clé de la poterne ?»
Nicolas prit un trousseau suspendu à la muraille. Dans ce trousseau, il désigna une clé et il dit
« La voilà !»«
C'est bien, viens avec nous !»«
Et j'aurai la pièce ?»«
Oui !»«
Mais, » fit alors le vieux moine, « ne faudrait-il pas attendre que la nuit soit plus avancée ?»«
Inutile, saint homme !» 10 heures vont sonner. Il fait noir comme dans un four.
D'ailleurs,
Entendez-vous la pluie ?
Puisque vous le voulez, allons.
Seulement, j'ignore si je pourrais marcher.
Appuyez-vous sur moi, bon père.
La vieille femme, le moine et le grand Nicolas sortirent de la cantine et côtoyèrent le rempart. La mère Finte soutenait les pas chancelants du religieux. Nicolas portait la lanterne et le trousseau de clés. Le vent mugissait. La pluie tombait à torrents. Les sentinelles, réfugiées dans leur guérite, veillaient fort mal à la sûreté de la place. Au bout d'une vingtaine de pas, nos trois personnages atteignirent l'escalier qui conduisait à la poterne. Cette poterne s'ouvrait à 8 ou 10 pieds au-dessus du sol des fossés.
« Il va nous falloir une échelle, » dit la mère Finte.
« Il y en a une tout justement contre le mur du petit pavillon qu'on est en train de réparer près de la chapelle. Nicolas, cours la chercher !»
Le grand garçon disparut dans les ténèbres et revint au bout d'un instant, traînant l'échelle demandée.
« Descends le premier, » reprit la vieille femme. « Ouvre la poterne et laisse glisser l'échelle. »
Nicolas obéit. On entendit la clé grincer dans la serrure et les gonds crier. La poterne s'ouvrit. L'échelle glissa le long de la muraille et toucha le sol.
« Maintenant, bon père, » dit la mère Finte au moine, « expliquez-lui bien, je vous en prie, ce qu'il faut qu'il fasse. »
Puis elle ajouta en s'adressant à son fils, « Nicolas, écoute le saint homme et retiens ses moindres paroles. »«
Mon enfant, » murmura le religieux, « vous allez descendre avec la lanterne et vous traverserez le fossé. » Quand vous serez de l'autre côté, vous ferez 350 pas, en allant tout droit devant vous. Vous décrirez ensuite un grand cercle que vous parcourrez dans tous les sens, en ayant bien soin de tenir la lumière de votre lanterne tout près de terre. À force de chercher, vous verrez quelque chose briller dans l'herbe. Vous vous arrêterez alors, vous ramasserez toutes les pièces d'or. Et il y en a beaucoup. Lorsque vos poches seront pleines et que vous ne verrez plus rien, « vous reviendrez. »«
Tu as compris ?» demanda la mère Finte.
« Oui, » répondit Nicolas.
« Alors va vite !»
Le grand garçon fit un pas, puis s'arrêta.
« Comme ça, il y en a beaucoup ?» dit-il d'un air réfléchi.
« Eh oui !»«
Alors, ce n'est pas une pièce qu'il faudra me donner, c'est 2 !»«
Bien, bien, tu les auras. Va vite !»
Nicolas se précipita le long de l'échelle, et tandis qu'il descendait, on l'entendait murmurer en se parlant à lui-même.
« Cela me fera 400 vers d'eau-de-vie !»
Il eut bientôt franchi le revers du fossé, et l'on put voir de l'autre côté du glacis la lueur pâle de la lanterne éclairant sa marche dans la direction indiquée par le religieux. Ce dernier demeura seul auprès de la mère Finte. Il s'était assis sur la plus basse marche de l'escalier, et sa main gauche s'appuyait sur l'un des montants de l'échelle. La vieille femme se penchait en dehors de la poterne afin de mieux suivre du regard les pas rapides de son fils. Nicolas était déjà bien loin. Soudain, au milieu des grandes plaintes du vent et du murmure monotone et continu de la pluie, retentit, derrière la mère Finte, un coup de sifflet formidable et qui ne semblait point s'échapper du gosier d'un homme. La vieille femme se retourna tremblante.
« Bon père ! » s'écria-t-elle. « Mon Dieu, que faites-vous ? »
« Je fais, digne femme, ce que vous faites vous-même. J'attends. »
« Mais ce sifflement terrible ! »
« Je n'ai rien entendu. »
La cantinière chancela de stupeur.
« Impossible ! » murmura-t-elle.
« Et je crois... »
Elle n'acheva pas. Un second coup de sifflet, pareil au premier, lui coupa brusquement la parole. Mais ce coup de sifflet venait du bas de la muraille.
« mon père » balbutia-t-elle. « Cette fois, avez-vous entendu ?»«
Rien, ma fille, » répondit de nouveau le moine.
« J'ai peur. De quoi donc, digne femme ?
Il se passe des choses étranges.
Je ne vous comprends pas. »
Un troisième sifflement succéda aux deux premiers. Il semblait retentir au pied de l'échelle.
Ah ! Cria la cantinière. Nous sommes perdus ! Fuyons !
Et elle voulut s'élancer pour gravir les marches raides de l'escalier, mais le moine, debout devant elle, l'arrêta brusquement.
Tais-toi, femme ! Lui dit-il d'une voix basse et vibrante. Tais-toi ! C'est la justice de Dieu qui monte !
L'une de ses mains avait saisi le bras de la vieille et le contenait comme dans un étau de fer. Les jambes de la malheureuse ployèrent sous elle. Elle tomba assise sur une des marches de l'escalier. Un homme parut alors sur le haut de l'échelle et se dessina dans l'encadrement formé par la poterne. Puis deux, puis dix, puis d'autres encore. Dans les ténèbres, on voyait briller vaguement les poignées des épées et les crosses des pistolets. « Passez !» disait le moine à chacun de ses hommes. « Passez !» Tout à coup, sur les remparts, retentit ce cri. « Aux armes !» En même temps, on entendit la détonation d'un mousquet. Une clameur immense s'éleva aussitôt de toutes parts, indiquant clairement que le château était enveloppé d'ennemis. Le moine, alors, lâcha le bras de la vieille femme et, redressant sa haute taille, il arracha la barbe postiche qui lui couvrait une partie du visage. Il jeta loin de lui son froc et sa ceinture de corde. « Camarades ! » cria-t-il d'une voix retentissante. « En avant !» La cantinière, anéantie, balbutia. « Pitié ! Au nom du ciel, ayez pitié de moi !» Le faux moine se retourna vers elle. « Femme, lui dit-il, rentrez chez vous et ne craignez rien. Il ne sera fait aucun mal, ni à vous, ni à votre fils. Je vous en donne ma parole. »
« Votre parole ? Mais qui donc êtes-vous ? »
« Je suis le capitaine Lacuzon. » Et Jean-Claude Prost bondit dans l'escalier, tandis que la cantinière, présageant le succès du hardi coup de main des montagnards, et fidèle à ses habitudes de brusques revirements, s'écriait du haut de sa tête « Vive Lacuzon ! Vive les Cuanais !»
Chapitre 26. L'otage. Nous avons laissé le cardinal et le prêtre dans la chapelle du château au moment où le troisième coup de sifflet venait de retentir et où Marquis, élevant vers le crucifix ses deux mains jointes, s'écriait « Seigneur mon Dieu, vous m'avez accordé plus que je ne vous demandais. Soyez béni, soyez béni. » « Que se passe-t-il ? » murmura Richelieu haletant. « Que signifient ces clameurs étranges ?»« Monseigneur, reprit Marquis, élevez vous aussi votre âme, et remerciez le Dieu Tout-Puissant qui tient dans sa main la vie des rois et des ministres, comme celle des pâtres et des mendiants, et qui vient de sauver la vôtre. » « Que voulez-vous dire ? » demanda le cardinal. « Je veux dire, Monseigneur, que si Dieu ne vous avait inspiré la volonté de me faire grâce, si vous aviez ce soir ordonné mon supplice, il ne vous resterait maintenant que quelques minutes à vivre. » « Vous êtes insensé !» s'écria le cardinal. « Non, Monseigneur, car au moment où je vous parle, ce n'est pas le tout-puissant ministre du roi de France qui commande au château de Bletterand. Et qui donc ? C'est le capitaine Lacuzon. » Les sourcils épais de Richelieu se rejoignirent. Son front se plissa. Tout son visage prit une expression menaçante. « Lacuzon, ici ? » dit-il. « Au malheur, malheur à lui !» Et il voulut se diriger vers l'une des portes de la chapelle. Marquis l'arrêta. « Malheur à vous, plutôt, Monseigneur, si vous sortez !» répliqua-t-il. « Ne me quittez pas, Monseigneur, car je suis votre égide. Ne me quittez pas, en vérité, je vous le dis, ou vous êtes perdu. » « Perdu ? » répéta Richelieu. « Allons donc, la garnison du château est nombreuse. » « Qu'importe ! Elle est vaillante, elle résistera. » « On ne résiste pas à Lacuzon, Monseigneur. » Richelieu allait répondre, mais les dernières paroles de Marquis reçurent une confirmation éclatante et soudaine. Les clameurs s'étaient rapprochées, et à ces clameurs se mêlait un cliquetis d'armes. Des voix enfiévrées répétaient le cri de guerre montagnard. « Lacuzon ! Lacuzon !» et de longs gémissements répondaient à ce cri. Les portes de la chapelle s'ouvrirent violemment, les vitraux volèrent en éclats, et par toutes les ouvertures se ruèrent les soldats des corps francs, guidés par Lacuzon. « Ah ! » s'écria ce dernier en s'élançant vers Marquis et en saisissant ses mains qu'il serrait avec transport. « C'est vous, mon père, enfin, c'est vous ! Je vous retrouve et je vais vous venger. » Puis tout à coup il recula en murmurant. « Le cardinal ?» Il venait d'apercevoir Richelieu à côté du curé Marquis. Le moment était suprême, et la vie du ministre
ne tenait littéralement qu'à un fil. Les montagnards, surexcités par le combat, animés par une attente de bien des heures, par une lente et mortelle inquiétude et aussi par la foudroyante et complète réussite du plus dangereux de tous les projets, les montagnards, disons-nous, trouvant en face d'eux celui qu'ils devaient à bon droit considérer comme leur plus mortel ennemi, celui dont la mort finirait la guerre d'un seul coup, pouvaient se laisser entraîner à quelque extrémité terrible. Marquis le comprenait bien, et Richelieu ne le comprenait pas moins que lui. Cependant, le cardinal avait conservé, ou plutôt repris, en face du péril imminent, toute la fierté de son attitude, et rien dans sa physionomie ne décelait le trouble ou l'effroi. Entouré par les montagnards, l'épée à la main, il avait l'air aussi calme qu'au milieu de ses gardes aux uniformes éblouissants. Avec sa profonde expérience de tous ces hommes, parmi lesquels il vivait depuis si longtemps, le curé marquis jugea qu'il fallait profiter pour sauver Richelieu de ce premier moment de surprise et d'hésitation. Dans un instant, peut-être, serait-il trop tard. « Jean-Claude, » dit-il d'une voix forte, « et vous tous, mes amis, mes enfants, vous vous êtes dévoués pour moi, vous m'avez sauvé, vous me ramènerez triomphant dans nos montagnes d'où je suis parti prisonnier. Je comptais sur vous, je vous attendais, je savais bien que vous feriez votre devoir, je vous connaissais trop pour en douter. Maintenant, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, et souvenez-vous que c'est non seulement un de vos chefs, mais encore un ministre de Dieu qui parle. » Marquis étendit sa main au-dessus de la tête de Richelieu et reprit avec une solennité imposante. « Monseigneur le cardinal de Richelieu, premier ministre de Louis XIII, roi de France, moi, Pierre Marquis, au nom de l'armée franc-comtoise dont je suis l'un des chefs, je vous fais grâce et je vous donne ma parole de prêtre et de soldat que pas un cheveu ne tombera de votre tête. Un frémissement de surprise courut dans les rangs des montagnards. « Mon père ! » s'écria l'accusant. « Songez-vous bien à ce que vous dites ? Épargner Richelieu ? Mais c'est éterniser la guerre ! Nous épargne-t-il donc, lui ? N'est-il pas notre mortel et implacable ennemi ? N'est-il pas le fléau terrible de la province décimée ? » ?»« J'étais au pouvoir du cardinal de Richelieu, » répondit le prêtre. Il n'avait pour faire tomber ma tête qu'à prononcer un mot. Chacun l'applaudissait d'avance, et le seigneur au masque noir demandait tout haut pour moi la corde et le gibet. C'est alors que Richelieu est venu me trouver, et qu'il m'a dit « Vous vivrez, et je ne vous vends point la vie. Je vous la donne. Condamnerez-vous maintenant celui qui m'a généreusement épargné? Et paierez-vous avec du sang ma dette de reconnaissance? Ce serait honteux pour moi. Ce serait honteux pour vous. Ce serait déshonorant pour la noble province. C'est vrai, répondit l'accusant avec une expression de profond regret. Puis il ajouta en s'adressant à Richelieu. Monseigneur le cardinal, vous avez fait grâce de la vie au curé marquis. Le curé marquis vous fait grâce de la vie. Il ne vous doit plus rien. Il est écrit, monseigneur, fit à son tour le prêtre soldat, il est écrit là-haut que vous mourrez tout puissant. « Quoi ? » s'écria Richelieu. « Vous me laissez libre sans condition ?»« Oui, monseigneur. Il ne sera pas dit que nous aurons été vaincus par vous dans une lutte de générosité. » Le cardinal tendit au prêtre sa main presque royale. « Vous êtes d'invincibles ennemis, » murmura-t-il. « Je ne l'avais jamais mieux compris qu'en ce moment. »« Monseigneur, » reprit Marquis, « il faut que je vous adresse une question. » Quelle qu'elle soit, j'y répondrai. Le gentilhomme au masque noir, est-il encore au château? Non, il n'y est plus. Il en est parti à la tombée de la nuit avec le comte de Guébriant. L'accusant fit un geste de colère. Ah, sire de Montaigu, murmura-t-il. Patience, patience, vous nous verrez au château de l'Aigle. Ainsi? Demanda vivement Marquis. En titre de Montaigu? Et l'homme au masque noir, répondit le capitaine. Magui le savait bien, et Raoul ne se trompait pas. Et tu as la preuve de ce que tu dis? Oui, et j'ai entendu l'infâme gentilhomme promettre au sire de Guébriant de nous attirer, par Rose et moi,
dans un piège, afin de nous livrer ensuite à la France, et de finir ainsi d'un seul coup la guerre de l'indépendance franc-comtoise.
Le misérable, murmura Marquis.
Oui, bien misérable en effet, répéta Richelieu de sa voix lente et basse, et bien méprisé par cela même dont il était l'instrument. Certes, d'ailleurs, la découverte du secret du masque noir est l'avantage le plus signalé que vous ayez remporté depuis le commencement de la guerre. Le seigneur de l'Aigle cesse d'être dangereux pour vous, maintenant que son masque est tombé, et nous ne comptions que sur lui, il faut bien que je l'avoue, pour nous assurer la possession de la province que vous défendez avec tant d'héroïsme. L'hiver approche, la campagne est terminée, et si j'ai quelque crédit dans les conseils de Sa Majesté le roi Louis XIII, elle ne recommencera pas. Nos troupes vont rentrer en France. Vous avez vaincu Richelieu. Pour le faire, il fallait des hommes tels que vous.
Peut-être, monseigneur, repartit Marquis avec l'expression d'un orgueil légitime,
peut-être l'histoire un jour nous fera-t-elle un titre de gloire, non pas d'avoir vaincu Richelieu, mais de lui avoir résisté. Il nous reste maintenant à remplir un devoir terrible, devant l'exécution duquel nous ne faiblirons point. Dans les rangs des défenseurs de la Comté Franche, il s'est trouvé un traître. Plus ce traître était haut placé, plus il faudra que sa punition soit formidable, afin d'arrêter par la terreur ceux qui voudraient trahir encore. Dans quelques jours, Antide de Montaigu rendra compte de ses crimes au Parlement de Dôle. Dans quelques jours, le château de l'Aigle aura disparu, et sur ses ruines, on sèmera du sel. Les lois féodales, quand elles frappent dans sa personne et dans ses biens un chevalier félon, permettent de laisser debout une des tours du manoir démoli, afin que le nom d'une vieille race ne périsse pas tout entier. Nous, nous irons plus loin que la loi vengeresse. Le nom de Montaigu s'éteindra. La tour de l'aiguille tombera en même temps que ses sœurs.
Et ce sera justice, dit Richelieu, entraîné malgré lui à confesser la vérité.
Le curé marquis reprit, mais en s'adressant aux soldats des corps francs qui l'entouraient, « Nous allons quitter le château, et comme nous ne rencontrerons pas de résistance pour notre retraite, songez que tout acte de violence serait un crime. » En ce moment, Garbas entra dans la chapelle. « Capitaine, dit-il, vous ne savez pas ce qui se passe ?»«
Que se passe-t-il » demanda l'accusant.
« Des troupes françaises et suédoises, venant de trois directions différentes, marchent sur le château et se rapprochent rapidement. » Dans moins d'un quart d'heure, la citadelle sera enveloppée.
Ces troupes sont-elles nombreuses?
Nos éclaireurs, qui viennent d'apporter cette nouvelle, évaluent chacun des corps d'armée à 5000 hommes.
Bien. Où est messire Raoul?
Il occupe la principale entrée du château. Il a disposé des postes partout. Tout le monde est sur ses gardes.
Bien, répéta l'accusant.
Puis après avoir réfléchi pendant un instant, il demanda... « A-t-on fait des prisonniers ?»«
Oui, capitaine. »«
Parmi eux, se trouvent-ils quelques officiers d'importance ?»«
Un seul, capitaine. »«
Lequel ?»«
Le marquis de Feuquières. »«
Monseigneur, » dit le curé marquis au cardinal, « que sont devenus messieurs de Longeville et de Villeroy ?»«
Ils ont quitté le château en même temps que le comte de Guébriant et le seigneur de l'Aigle. »«
Garbas, » reprit l'accusant.
« Fais amener ici le marquis de Feuquières. »
Le trompette sortit.
« Monseigneur le cardinal, » poursuivit le capitaine,
« les troupes qui viennent à votre aide se sont trop hâtées, et dans votre propre intérêt, je le regrette. »«
Que voulez-vous dire, capitaine ?»«
Je veux dire, monseigneur, que vous êtes notre seul otage, et que pour que nous soyons en sûreté ici, puisque la retraite nous est coupée, il faut que vous restiez notre prisonnier. »
Marquis fit un geste et il s'apprêtait à interrompre l'accusant, mais ce dernier ne lui en donna pas le temps.
« Mon père, s'écria-t-il, songez que je réponds de la vie des 500 hommes qui m'accompagnent. Songez qu'une minute de faiblesse ou d'imprudence peut nous perdre et les perdre avec nous. Vous êtes sous l'empire d'un sentiment de générosité chevaleresque que je dois respecter, mais auquel je ne puis obéir. D'ailleurs, vous ne quitterez point son éminence. » Et nul péril ne saurait l'atteindre à côté de vous. Nous sommes des soldats, nous ne sommes pas des assassins.
Capitaine l'accusant, dit Richelieu, je n'ai point de crainte, je sais d'avance que vous ne ferez rien que d'honorable,
Je sais d'avance que vous ne ferez rien que d'honorable et de juste, et je suis en sûreté.
Et vous avez raison, monseigneur.
Garbas rentra dans la chapelle, amenant avec lui le marquis de Feuquières.
Monseigneur, reprit le capitaine, voulez-vous donner à monsieur de Feuquières la mission de faire camper autour du château, dans la position où elle se trouve, les troupes qui viennent à votre secours?
Il est indispensable que cet ordre arrive avant que nous soyons attaqués.
Vous avez entendu, général? Demanda le ministre.
Oui, monseigneur.
Eh bien, allez. Vous voyez bien qu'en ce moment, ce n'est pas moi qui commande ici.
Général, ajouta l'accusant, vous plairait-il, après avoir accompli le message dont vous êtes chargé, de revenir au château? Il est vraisemblable que son éminence aura besoin de vos services.
Je reviendrai, répondit le français.
Pourquoi, demanda Marquis après le départ de monsieur de Feuquières, pourquoi fais-tu camper les troupes autour du château au lieu de les renvoyer dans leur quartier?
Est-ce que nous ne partirons point cette nuit?
Non.
Pourquoi cela?
Je ne veux pas que notre retraite ait l'air d'une fuite. Nous quitterons Bletterans au grand jour, et nos 500 hommes passeront triomphants au milieu des 15 000 Français qui leur présenteront les armes.
Mais n'est-ce pas courir au-devant du danger?
Le danger n'existera pas.
Quel est ton projet?
Vous le connaîtrez quand le moment de l'exécution sera venu.
Marquis n'insista pas.
Monseigneur, reprit l'accusant en s'adressant au cardinal, rien ne vous empêche de regagner votre appartement et d'y prendre le repos dont vous devez avoir grand besoin. J'aurai l'honneur, si vous le permettez, de vous servir cette nuit de valet de chambre.
J'accepte le repos, messire, répondit Richelieu avec un sourire un peu forcé, mais je refuse vos services. Une main vaillante comme la vôtre ne peut descendre à des soins vulgaires.
Le ministre rentra dans sa chambre à coucher et se jeta sur son lit.
Plutôt, afin de se donner les apparences du calme profond, qui peut-être n'était pas dans son âme, que pour y chercher le sommeil qu'il avait la certitude de n'y point trouver.
L'accusant, Piédefer et Garbas se placèrent aux trois issues de la chambre, ne voulant point confier à d'autres qu'à eux-mêmes la mission de veiller sur l'illustre prisonnier. Les troupes françaises avaient obéi religieusement à l'ordre transmis par le marquis de Feuquières, et ce dernier, fidèle à sa promesse, était rentré dans le château. Le reste de la nuit se passa dans la tranquillité la plus absolue. On eût dit que le château de Bletterans n'avait pas changé de maître. Enfin, le jour parut. Le capitaine courut au rempart, après avoir remis à marche à terre le soin momentané de veiller à sa place à la porte du cardinal. Les trois corps de l'armée ennemie campaient dans la plaine et couvraient, au nord, au sud et à l'ouest, un immense espace de terrain. L'accusant jeta un coup d'œil sur sa petite troupe, réunie au pied de l'esplanade. Comparativement aux forces ennemies, les 500 montagnards étaient une goutte d'eau dans la mer. Le capitaine sourit avec une indéfinissable expression et l'éclair du triomphe flamboya dans son regard. « Ah » murmura-t-il, « ce sera beau, et jamais semblable spectacle n'aura été donné au monde. »
Puis il regagna le château et frappa à la porte de Richelieu. Le cardinal était déjà debout et s'entretenait de l'air le plus tranquille avec le curé marquis et avec monsieur de Feuquières.
« Eh bien, capitaine, demanda-t-il.
Eh bien, que venez-vous nous annoncer?
Monseigneur, répondit l'accusant, le moment du départ est venu, et je regrette d'avoir à vous apprendre qu'il faut que votre éminence soit notre bouclier pour la retraite, comme elle a été notre bouclier pour l'attaque.
Parlez, capitaine, et je subirai la loi du plus fort.
Durez l'ex, cède l'ex.
Il faut, monseigneur, poursuivit le jeune chef, il faut que le marquis de Feuquières retourne de votre part porter de nouveaux ordres à l'armée française. Il faut que cette armée se range sur deux lignes, depuis Bletterans jusqu'à Montmoreau, en laissant entre ces lignes un espace libre de 500 pas.
Nous passerons au milieu de vos soldats, monseigneur. Nous y passerons la tête haute et le cœur tranquille, car vous serez avec nous.
Car j'aurai l'honneur d'appuyer votre bras sur le mien, et nul Français, en voyant marcher ainsi l'un à côté de l'autre, le ministre du roi de France et le chef montagnard, n'aura seulement la pensée de tirer son épée du fourreau.
En écoutant parler l'accusant, le cardinal avait pâli, et le frémissement involontaire de ses paupières et de ses narines
décelait une terrible angoisse intérieure. C'est qu'en effet son immense orgueil recevait une blessure profonde et douloureuse. « Vous exigez beaucoup, capitaine, » dit-il enfin. « Mais il faut obéir. Au siècle de Rome, une voix fatidique a crié ces deux mots éternellement vrais. « Voe victis, malheur aux vaincus. » « Monseigneur, » reprit le jeune homme, « aussitôt que nous aurons franchi les dernières lignes de l'armée française, vous serez libre. » « Qui m'en répond ?»« Ma parole, monseigneur, » s'écria fièrement l'accusant. « Allez, monsieur de Feuquières, » dit le cardinal, « répétez aux officiers les paroles que vous venez d'entendre, et que les officiers les répètent aux soldats. » Au bout de moins d'une heure, les ordres de Richelieu, ou, pour parler d'une manière plus conforme à la vérité, les ordres de l'accusant, avaient été exécutés de point en point, et l'armée ennemie, échelonnée sur deux lignes, formait une immense avenue dont l'extrémité disparaissait derrière les brumes de l'horizon. Bien des murmures, bien des cris d'indignation s'étaient élevés dans les rangs des Français, au moment où s'était répandue la nouvelle de l'exigence du chef montagnard. Mais il fallait courber la tête et se taire. Ainsi que l'avait dit le ministre lui-même, il fallait subir la loi du plus fort. Et Richelieu captif mettait la force aux mains de cette poignée d'hommes qui semblaient captifs eux-mêmes au milieu d'une armée. Le marquis de Feuquières revint annoncer que tout était prêt. « Monseigneur, dit l'accusant, j'attends vos ordres. » Un sourire amer vint aux lèvres de Richelieu. « Mes ordres ? » répéta-t-il. Puis il ajouta « Partons !» Au bout de quelques instants, la porte de la citadelle s'ouvrait. Le pont-levis s'abaissait et laissait sortir la petite troupe des montagnards. D'abord venait une avant-garde de 100 hommes, commandée par Raoul de Champdivert et précédée par Garbas, dont le clairon sonnait une fanfare triomphante. 300 hommes suivaient l'avant-garde et formaient en quelque sorte l'escorte de Richelieu, qui marchait entre l'accusant et marquis, tous deux la tête nue. 100 autres montagnards, sous les ordres de Piédefer, fermaient la marche et servaient d'arrière-garde. Les Français, immobiles, silencieux, l'arme au bras, baissaient la tête d'un air morne, ou jetaient sur les partisans des regards chargés de haine. Eux aussi ressentaient douloureusement le contre-coup de l'humiliation imposée à leur chef suprême. Parfois, un involontaire frémissement d'indignation courait dans leurs rangs comme un vent d'orage. Mais les officiers imposaient silence aussitôt, et l'on n'entendait plus que le pas cadencé des montagnards triomphants et le clairon de Garbas qui sonnait sans relâche sa fanfare victorieuse. Ainsi que nous avons entendu l'accusant se le dire à lui-même, jamais aussi étrange spectacle n'avait été donné au monde. Enfin, on atteignit l'endroit où se terminait la double haie des troupes françaises. Richelieu s'arrêta. « Suis-je libre ? » demanda-t-il. « Bientôt, monseigneur, » répondit l'accusant. « Cependant, pas encore. Vous êtes trop habile homme de guerre pour ne pas savoir que nous ne pouvons nous croire en sûreté que lorsque la poursuite sera devenue impossible. » En même temps, le capitaine donna l'ordre à Marche-à-Terre de se détacher et d'aller prévenir l'un des officiers français qu'il pouvait suivre les montagnards avec 50 hommes, afin que le cardinal ne se trouvât pas seul au retour. Puis la troupe se remit en marche. Au bout d'une demi-heure, on était aux portes de Lons-le-Saunier. L'accusant ne voulut point traverser la ville. Il fit tourner à droite, et les montagnards atteignirent bientôt l'entrée des gorges de Bévigny. « Monseigneur, dit alors le capitaine au cardinal, ici, nous défions toute poursuite. Vous êtes libre, monseigneur, et voici votre escorte qui vous attend. » Monseigneur, dit à son tour le curé marquis, permettez-moi d'espérer que nous ne nous reverrons jamais. Qui sait ? Murmura Richelieu. Et après avoir répondu par un mouvement de tête empreint d'une dignité toute royale au salut respectueux du prêtre et du capitaine l'accusant, il retourna sur ses pas et il rejoignit les 50 Français qui l'attendaient. Son éminence, monseigneur le cardinal de Richelieu, avait hâte de se sentir véritablement et complètement libre. « Vive la comté !» crièrent d'une voix unanime tous les montagnards quand le ministre fut hors de vue. Puis ils se remirent rapidement en marche dans la direction des premiers plateaux du Jura.